France, tout comme sur l'ensemble de la planète, le monde agricole est en crise. Face à cette situation, certains ont tourné le dos aux pratiques industrielles pour redonner un visage paysan à leur travail, comme l'association Laboranza Gambara, située dans le Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Leur credo s'effeuille comme une marguerite à six pétales. Répartition, qualité, respect de la nature, autonomie, transmissibilité et développement local. Ce sont donc les bases du concept de l'agriculture paysanne et durable. Nous partons donc au milieu des montagnes verdoyantes du Pays Basque, là où vivent Agnès, Christian et Michel, des fermiers heureux rencontrés par Alain de Valpeau.
Nous avons la chance d'habiter un beau pays, et en même temps s'il est beau, c'est parce qu'il y a des gens qui vivent et qui le font vivre, ce pays.
Bon, ici, on est sur les surplombs d'Escandrail. Escandrail, c'est une petite montagne qui domine Itsasu. Et là, on a un petit concentré de l'agriculture basque. C'est-à-dire qu'on a, en face de nous, de l'autre côté du versant, on a ce qui était l'an dernier un champ de piment. Juste un peu plus loin sur la droite, on voit un petit champ de cerisiers qui sont en fleurs. Là, c'est l'époque de la fleur des cerisiers. Derrière nous, on a les cochons qui contribuent à venir en appoint de la brebis et de la vache qu'on voit là-bas. C'est des troupeaux de brebis qui sont des brebis laitières qui donnent le fromage, qui est quand même le produit phare emblématique de l'agriculture basque, c'est le fromage de brebis. Donc c'est la diversité de l'agriculture basque résumée dans ce quartier.
Je m'appelle Agnès Gorostiag, je vis à Saint-Étienne-de-Baïgorry, qui est caractérisée principalement par des productions de ovins-lait et bovins-viande. Voilà, c'est aujourd'hui l'exploitation agricole type. En ce qui nous concerne, nous n'avons ni brebis et seulement des vaches allaitantes, mais surtout de la vigne et puis aussi des chambres d'hôtes.
Christian Aguerre, qu'est-ce que vous faites ?
Je suis en train de nourrir mes cochons.
Vous en avez combien ?
Là, il y a un lot d'une vingtaine. En bas aussi, il y en a 17. Et puis dans une autre forêt, j'ai un lot de 24. Voilà. Après, en même temps, on n'a pas que ça comme production non plus. On fait aussi du piment d'Espelette.
Mes parents ont choisi effectivement d'avoir de la vigne, une activité d'élevage et aussi du tourisme pour conforter une structure qui, à elle seule, puisque nous n'avons qu'environ 18 hectares de SAU, c'est-à-dire de surface agricole utile, il nous fallait trouver un système qui nous permette de pérenniser, entre guillemets, l'emploi sur place, puisque de par les chambres d'hôtes, trois chambres d'hôtes que nous avons, ça nous apporte un revenu d'appoint, des rentrées d'argent qui ont été réinjectées dans la partie agricole. Et un peu plus tard, lorsque la partie agricole s'est trouvée confortée, de procéder à des améliorations au niveau du confort des chambres, de l'aménagement. Et c'est par le jeu des vases communicants que l'on est arrivé à la structure que nous avons aujourd'hui.
Christian Aguerre, c'est un élevage ouvert et les cochons ont aussi de l'espace pour se nourrir.
Le porc basque, c'est un animal aussi qui valorise bien l'herbe. Il en mange énormément, donc il prend une partie de son alimentation localement. Quoi. En même temps, il y a une notion de bien-être animal, mais aussi d'éviter un impact trop important sur l'environnement. Donc vous voyez, là c'est sûr que si on avait, les cochons, là, ils ont à peu près 2 hectares, ils sont une vingtaine. Bon, c'est sûr qu'on pourrait en mettre 10 fois plus, mais bon, l'impact serait tout autre sur l'environnement. Là, il n'y aurait plus un brin d'herbe, enfin, tout serait rasé, quoi. Bon, le porc basque, c'est une race locale. Avant, chaque région, on peut pas dire chaque vallée avait sa race qui était adaptée à son climat, adaptée, voilà, à son terroir. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont disparu parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'agriculture industrielle. C'est vrai qu'il y a un coût de production qui est nettement plus élevé, donc il faut vraiment qu'il y ait une différence sur la qualité. Et là, c'est vrai qu'avec ce cochon, on a une différence énorme sur la qualité du produit. On arrive à avoir une viande persillée qui fait la qualité de ce cochon.
La qualité, c'est une des lignes de force de cette agriculture paysanne et durable.
Du bon, propre et juste, c'est-à-dire il ne faut pas que la qualité.
Agnès Gorostiag, agriculture paysanne et durable, quelle est votre définition de ce terme ?
C'est une agriculture d'abord qui nous permette de vivre de notre travail. Il n'y a rien de plus dégradant que de se sentir dépendant du système de subvention mis en place au niveau européen. Ensuite, c'est pouvoir travailler dans des conditions qui respectent vraiment le sol sur lequel nous sommes nés. Le système intensif agricole est vraiment allé très très loin. Il nous rend dépendants de beaucoup de choses et nous sommes quand même un certain nombre à vouloir nous sortir de cela. On a le droit de pouvoir prétendre à manger du non-OGM, par exemple. C'est un droit absolu.
Je suis Berroco Irigoyen-Michel. Je suis, depuis la création de l'association La Volanza Gambara, je suis président de l'association, c'est-à-dire depuis le 15 janvier 2005. C'est une association qui a été créée pour promouvoir l'agriculture paysanne et durable en Pays Basque.
La Volanza Gambara s'est engagée dans une bataille, je dirais, considérable, puisqu'il s'agit de dire non à la diminution des paysans. Ensuite, c'est contribuer à maintenir des façons de travailler ou, dans le cas où nous les aurions perdues, à se les réapproprier.
C'est pas revenir en arrière qu'on peut utiliser notre histoire pour rebondir et pour arrêter aussi avec des sortes d'usines où l'animal n'est plus un animal puisque c'est juste voilà un intermédiaire entre une céréale et le consommateur final qui produit soit du lait, soit du fromage, on sait pas, mais peu importe. C'est des logiques industrielles où le paysan aujourd'hui est tenu à uniquement à des résultats chiffrés.
Notre logo est une marguerite à 6 pétales, hein, donc ça symbolise les 6 thèmes de l'agriculture paysanne. Il y a la notion de répartition, répartir les productions, répartir les aides agricoles le plus équitablement possible. Ensuite, il y a la notion de qualité des produits.
On en arrive, nous, à être originaux parce qu'on élève des cochons dehors. On voit même dans localement des gens qui élèvent des brebis qui sont pourtant des ruminants dans un pays où aussi on a énormément d'herbes. Il y a des gens qui arrivent à les garder 24 heures sur 24 dedans et à les nourrir à partir de céréales. Certes, on produit des produits qui sont pas chers, mais c'est des produits qui sont pas chers à l'achat uniquement. Parce que des rires coûtent très cher déjà à produire, puisqu'on paye déjà une première fois les subventions qui sont au volume. Donc plus on produit, plus on touche subvention. Bon, on le paye quand on l'achète. On le paye aussi quand on doit restructurer, dépolluer ou aider les agriculteurs en difficulté. Puis on le paye peut-être des fois une quatrième fois quand on va chez le médecin, parce qu'aussi c'est des produits qui ne sont pas forcément excellents pour la santé, quoi.
Ensuite, il y a le travail avec la nature. C'est un élément fondamental, hein. Donc nous travaillons avec des éléments qui sont le patrimoine collectif, la terre, la biodiversité, l'eau.
Les gens qui viennent au Pays Basque, ils viennent au Pays Basque parce qu'il y a aussi une identité au Pays Basque, parce qu'il y a une gastronomie au Pays Basque, parce qu'il y a des paysages au Pays Basque. Et derrière les paysages, c'est des paysans qui les entretiennent. Derrière la gastronomie, c'est des paysans qui les produisent. Et l'identité aujourd'hui, si elle est forte, c'est parce que le milieu rural aussi est un milieu où la culture basque est encore très présente.
Le paysage, c'est évidemment le résultat de la géographie, mais c'est aussi le résultat du type d'agriculture qui se fait là-dessus. Et donc ce paysage a une valeur pour l'ensemble de la société, pour le tourisme, l'artisanat, l'industrie. Et c'est au nom de cette richesse collective que nous devons, avec encore plus d'arguments, développer le type d'agriculture paysanne qu'on veut développer.
Agnès Gorostiag, être agriculteur au Pays Basque, c'est aussi lutter contre une nature pas forcément facile à dompter, puisque ce sont des montagnes. C'est aussi une forte spéculation foncière. Donc il y a beaucoup d'obstacles, et malgré cela, vous arrivez à résister.
Le relief, je dirais qu'on est né avec, donc on sait dès le départ à quoi s'en tenir, donc on apprend à vivre avec. Je dirais, entre guillemets, que finalement c'est presque le plus facile, en comparaison des problèmes liés à la spéculation foncière. Quand on construit une maison aujourd'hui, on choisit toujours les meilleurs terrains. Donc aujourd'hui, les paysans sont relégués aux terres les plus difficiles à cultiver. Nous nous sentons acculés. Et on finit par devenir des Indiens dans leurs réserves.
Christian Aguerre, à une certaine époque, on racontait qu'il n'y avait pas besoin d'aller à l'école pour être paysan dans la région. Est-ce que c'est toujours le cas ?
pendant très longtemps, après la guerre, là où il y a eu un appel vraiment de l'industrie, ça a vidé les campagnes, et donc rester dans les fermes, mais justement ceux qui n'étaient pas armés ou diplômés pour aller. Donc ça a donné quand même une génération de paysans très perméables à un discours productiviste qui tendait à supplanter l'homme par la chimie ou la machine, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la formation est nécessaire pour ouvrir l'esprit du paysan et nous montrer que ce discours ou cette fameuse pensée unique qui existe aussi en agriculture n'est pas une fatalité.
Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pensé toujours que pour rester à la ferme, il fallait aller à l'école. Et aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas de raison pour que nous nous laissions faire par ignorance. Déjà que les choses comme ça ne sont pas faciles, donc il faut quand même se donner les moyens d'y arriver.
Pour proposer directement une gamme de nos produits au consommateur final, donc on a mis en place un système de panier livré à domicile, c'est-à-dire légumes, volailles, œufs, viande, produits laitiers, voilà, tout ce qu'on produit dans le quartier. Donc sachant qu'on est 4 fermes, avec chacun des productions différentes et complémentaires.
Il y a la notion de l'autonomie, c'est-à-dire que le paysan, il faut qu'il puisse être autonome sur sa ferme, qu'il ne devienne pas un sous-traitant de l'agroalimentaire ou de la banque, donc qu'il puisse avoir l'autonomie de décision, l'autonomie économique, technique, etc.
Grâce à la dynamique créée autour de ce système de vente directe, eh bien, des 3 paysans qu'il y avait au départ sur les mêmes fermes, aujourd'hui on est une dizaine à vivre de notre métier.
Ce modèle basque agricole est-il exportable ?
Bien sûr, la terre n'est pas rancunière. On lui a fait beaucoup de mal un peu partout, mais on sait qu'en quelques années, elle arrive à oublier et à donner le meilleur d'elle-même. Donc on peut faire marche arrière. Mais c'est derrière une volonté politique. C'est aussi des aides à l'agriculture qui ne doivent pas être systématiquement des aides au volume. Mais tout ça, ça peut être, même assez rapidement efficace, quoi.
Exportable, oui, mais pas en l'état, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de modèle en kit qui soit applicable partout. Chaque territoire a ses richesses, a ses atouts et ses limites. L'agriculture paysanne et durable, c'est essentiellement une démarche.
Nous avons quitté l'extérieur, maintenant nous sommes à l'intérieur. Le travail de la ferme, c'est aussi un travail d'intérieur, c'est dans votre labo, comme vous dites.
Ici, c'est un labo qu'on a construit il y a 10 ans maintenant. Et entre tous les voisins, on a fait les travaux nécessaires à avoir un outil fonctionnel dans les normes, bien sûr, qui ne revienne pas trop cher, quoi. De manière à ne pas être dépendant des banques, de ne pas avoir trop de charges financières, mais autonome aussi vis-à-vis de notre débouché, puisqu'aujourd'hui on est maître de notre produit, de l'élevage jusqu'à la transformation finale.
Quel est l'intérêt à maîtriser l'ensemble du processus ?
L'intérêt, il est clair, c'est être autonome. Aujourd'hui, c'est de ne pas être dépendant d'un seul débouché. C'est aussi avoir de l'intérêt pour son travail. Je dis, moi, franchement, si c'était uniquement pour produire des cochons et les charger dans un camion une fois par mois, moi, je n'aurais pas fait ce métier-là. Moi, ce métier, il m'intéresse parce que, justement, je vais jusqu'au bout du produit. Et que quand je sèche mes jambons, j'essaye d'améliorer l'affinage, je goûte, j'échange avec les clients. Et tout ça fait que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et que, on ne s'ennuie pas. C'est ça aussi l'intérêt d'un métier. Donc là, j'étiquette là des produits qu'on va livrer à notre point de vente de Saint-Jean-de-Luz. On est 10 paysans regroupés pour commercialiser sur un point de vente à Saint-Jean-de-Luz. Ça, c'est un autre collectif différent de celui du panier dont je parlais précédemment. Le maître mot aujourd'hui, c'est de s'organiser. L'industrie agroalimentaire, elle s'organise pour désorganiser le monde paysan, pour travailler avec des individus. Mais nous, il faut qu'on aille à l'encontre de ce mouvement-là. Alors ça, c'est des filets mignons et des grillades de porc basque. Ce sont des produits qui sont... il n'y en a pas beaucoup par cochon, mais Ça, c'est des produits qu'on vend assez facilement.
Pour ma part, j'ai conscience que produire ou des légumes, ou des fruits, ou de la viande, des volailles, enfin quoi que ce soit, c'est un acte pour moi d'une grande noblesse. Manger, ça n'a rien d'anodin, et je suis convaincue que par l'assiette, et nous le vérifions à travers notre table d'hôte, il y a énormément de valeurs que l'on peut transmettre.
Christian Guerre ou Agnès, ce sont des exemples d'agriculteurs qui jouent sur la transparence, qui ouvrent leurs portes. Et c'est aussi parce que on considère que le consommateur a sa dignité et que c'est pas seulement des parts de marché, c'est pas seulement des estomacs à remplir. Nous sommes là dans une agriculture qui doit être capable en même temps de respecter le paysan, la nature et le consommateur.
Cette relation producteur-consommateur, on essaie d'aller au-delà d'une relation purement commerciale. Les consommateurs, donc adhérents au réseau, sont organisés en association, donc avec un bureau avec lequel on se réunit, avec lequel on se réunit régulièrement, pour soit parler du produit, du conditionnement, et on dit, ouais, voilà, vaut mieux mettre des poches par deux, enfin voilà, des genres de détails comme ça qui fait qu'on essaie toujours d'améliorer le service. Tout ça, ça permet aussi de fidéliser, déjà, hein, d'avoir vraiment une relation pérenne. C'est ça qui est notre force, puisqu'on a traversé, sans trop d'encombre, toutes les crises qu'il y a eu sur les poulets, sur la vache folle, au contraire, chaque fois qu'il y a eu une crise, les gens, on sentait les ventes qui ont augmenté, parce que les gens voulaient se rassurer,
À peu près les deux tiers des exploitations du Pays Basque sont assez nettement dans les démarches d'agriculture paysanne.
Michel Berroco et Rigouin, quels sont les facteurs qui permettent cet essor de cette agriculture ?
De façon générale, les facteurs qui permettent d'aller vers l'agriculture paysanne sont, à notre avis, de trois ordres. Il y a d'une part le cadre des politiques agricoles. Les politiques agricoles européennes, nationales, régionales ou départementales, orientent très fortement une agriculture. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est finalement le choix du paysan. Quel que soit à la limite le cadre politique, nous pouvons, dans nos fermes, faire des choix de par les méthodes de travail, de par la façon d'élever nos animaux, de faire les cultures, en grande partie, dépendent de nos choix. Et la troisième condition, c'est un petit peu le choix, l'implication de la société civile en général.
S'il y a un seul message à donner, c'est dire aux gens, regardez ce que vous avez dans l'assiette. Dans votre assiette, vous avez la planète et le consommateur est aussi, comme on le dit parfois, un coproducteur, c'est-à-dire que c'est lui qui influe sur ce qui se passe chez les gens qui ramassent du haricot vert au Burkina Faso ou du soja au Brésil.
L'agriculture paysanne, c'est la réponse même à la problématique de la famine dans le monde, à la problématique des paysans pour que les paysans puissent rester sur leur terre au lieu d'aller construire des bidonvilles, etc. Donc c'est la déclinaison locale du grand principe de souveraineté alimentaire qui est le principe qui va sauver les populations paysannes du monde et au-delà l'ensemble des populations.
Je pense aux paysans de pays d'Afrique ou de pays en tout cas qui ne connaissent pas la richesse que nous avons nous ici et qui se battent au quotidien et qui ne disposent pas des moyens que nous avons. Et combien nous faisons la même chose et combien il faut veiller à ces systèmes-là de production.
Paysans du monde entier, unissez-vous.
Oui, unissons-nous.
Aujourd'hui, nous sommes dans un système économique qui ne peut continuer à exister, à survivre, que sous perfusion. Ça coûte très cher, ce n'est pas durable. L'argent existe. La grande question, et c'est là où les consommateurs et les contribuables doivent nous aider, nous, en tant que paysans, c'est d'exiger que cet argent soit conditionné sur notre façon de travailler, sur notre façon de produire les biens alimentaires, avec une bonne qualité gustative et sanitaire. Et ça va conforter toutes ces initiatives pour qu'elles puissent être plus fortes et puis qu'elles puissent se multiplier.
promotion d'une agriculture paysanne et durable, c'est aussi une responsabilité des consommateurs?
Oui, absolument, c'est une responsabilité des consommateurs, c'est l'une des conditions de son développement. Ils ont la possibilité d'encourager tel ou tel type d'agriculture en fonction des choix qu'ils font. Quel type d'alimentation, donc quel type d'agriculture, je choisis.
Ça n'est pas tous les jours facile, certes, mais au bout du compte, il y a une satisfaction et on se dit, allez, on continue. Il y a une dynamique que nos parents ont su nous transmettre, que nous avons, nous, la mission aujourd'hui de faire vivre et de transmettre aussi à nos enfants. Le jeu en vaut toujours la chandelle et plus que jamais.
Il y a la notion de transmissibilité. La transmissibilité, c'est la capacité de transmettre l'outil de travail, notre exploitation de génération en génération, et que l'histoire ne s'arrête pas avec nous, qu'elle continue. Et là aussi, c'est des conditions techniques, économiques, sociales, humaines qui contribuent à ça. Et le dernier thème, c'est le développement local, l'aménagement du territoire. C'est l'idée que les paysans, ils sont non seulement acteurs sur leur ferme, mais acteurs aussi sur leur territoire.
On s'assied là ?
Voici la fameuse table d'hôte. Il y a notamment le poêle, autour duquel, finalement, la chaleur est aussi une chaleur humaine.
Ah, tout à fait.
C'est ce qui compte. Hein. Ici, il n'y a pas de surfait chez nous.
C'est madame votre mère ?
C'est maman, voilà, qui est largement partie prenante de l'activité. Voilà. Et donc, effectivement, le fait de manger dans la cuisine fait que l'on se trouve dans une ambiance où on a les odeurs, on a le visuel, on a tout ça. Et puis, pour nous, en tant que paysans, le lieu de vie principal de la maison, c'est la cuisine. On a beau avoir une salle à manger ou une salle de séjour, c'est à la cuisine que nous vivons.
Ce qu'il faut surtout, je crois, c'est quand même se plaire dans l'agriculture. Si c'est difficile, si les vacances ne sont pas automatiques, comme les citadins ou tout ce qui les approche, nous, on est contents de rester. Pour nous, c'est... Enfin, moi, du moins, c'est vacances tous les jours. Voilà.
Bon, excusez-moi, parce que je ne peux pas mettre des choses à la fois.
Et madame, vous, le fait que votre fille ait repris la ferme, c'est une bonne nouvelle, vous en êtes heureuse?
Dites, ne posez pas une question comme ça, hein. Alors vous pensez bien qu'on est heureux. Ça, c'est sûr. Il y a tellement, on a entendu ici, tellement de parents qui n'ont plus personne pour suivre leur affaire chez eux. Combien de fois? Et ça, c'est une véritable peine pour les gens.
Pour un jeune qui a un intérêt pour le métier agricole, c'est déjà lui dire que l'agriculture, c'est un beau métier qui redonne de la valeur à l'essentiel. C'est aussi un métier très épanouissant, mais ça dépend comment on le fait.
Nous considérons que tous les paysans, quelle que soit leur situation actuelle, doivent pouvoir améliorer ses pratiques, ses systèmes de production et avancer vers une ligne d'horizon. L'agriculture paysanne, c'est plus une ligne d'horizon qu'un espace bien délimité. C'est pas simplement une question de niche qui serait un petit peu presque des exceptions à la règle de l'agriculture industrielle. Il nous semble que l'agriculture paysanne peut être une réponse globale pour l'ensemble de l'agriculture. Les politiques agricoles et les orientations, les conditionnalités qui sont données à l'utilisation des aides agricoles pourraient permettre d'atteindre cet objectif.
Rémi Rivière, vous êtes journaliste, vous écrivez un livre sur la Boransa Gandbara. Que représente cette association au Pays Basque ?
Il faut savoir que son histoire a commencé, non pas l'histoire de cette association, mais l'histoire de ce mouvement a commencé dans les années 80, avec une conscientisation des paysans basques, qu'on peut vivre nombreux sur un petit territoire en faisant de la nourriture de bonne qualité. Et c'est pas pour rien que la campagne basque est très peuplée, très dynamique. Il y a beaucoup d'installations de jeunes agriculteurs encore aujourd'hui dans un secteur complètement sinistré. C'est toute cette histoire, ce prolongement qui fait qu'aujourd'hui, la Boransa Gandbara a ce retentissement.
Le combat de cette association est-il soutenu par les gens des villes ?
C'est un discours politique qui trouve un écho très très favorable au Pays Basque, notamment auprès des élus. Donc 1000 élus se sont engagés pour soutenir l'association 1000 élus basques, énormément de personnalités et une large partie de l'opinion publique.
La soupe est servie, elle est chaude. Je vous laisse aller la déguster.
Asseyez-vous et puis allez-vous. Ayez un verre, s'il te plaît.
D'accord.
Un reportage signé Alain de Valpo. Demain, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, nous irons prendre l'air dans les îles Éparses, dans le sud-ouest de l'océan Indien, un territoire d'outre-mer français qui abrite de nombreuses barrières de corail.